Radio Campus Paris.
Nous sommes le lundi 24 juillet, il est 18h, vous écoutez Radio Campus Paris en FM et sur le web et c'est l'heure de la relève.
La relève sur Radio Campus Paris.
Bonsoir, bienvenue pour la relève. Pour la dernière fois de cette saison, on va passer 30 minutes avec une invitée dont c'est la première fois, le fameux jeune talent d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, on va parler de choses qu'on ne devrait pas faire dans les vestiaires quand on est un garçon et des parents qui rentrent souvent trop tôt quand on n'a que 13 ans. Mon invitée est bédéaste. Bonjour Mona Grosjean, Grandjean, pardon, vous m'entendez ?
Oui, je vous entends.
Alors moi, je vous entends très mal, j'ai un retour dégueulasse, mais voilà, c'est bon, ça y est. Ça y est, c'est un problème de fiche et de contact, mais tout est bon. On se calme en régie, okay. C'est parfait, je vous entends. Alors, vous publiez aux éditions Virage Graphique de votre premier roman, votre première BD, pardon, qui s'appelle Demi-pensionnaire. Comme son titre l'indique, c'est un récit d'adolescence. Quand vous-même, vous aviez 13 ans, vous rêviez un jour de produire une BD quand vous seriez grande. Je rappelle que vous avez aujourd'hui 25 ans.
C'est ma première BD, oui. Et effectivement, quand j'étais lycéenne, je voulais déjà faire de la BD, ouais. Mais je savais pas que j'allais en publier une.
Mais vous espériez en tout cas le faire un jour.
De quoi ?
Vous espériez le faire un jour, d'être un jour de dessiner une histoire et de l'écrire de A à Z.
Oui, mais ça me paraissait très difficile à faire. Et j'arrivais pas à dessiner le même personnage sur les deux cases. Enfin, j'arrivais pas à dessiner le même personnage, ouais.
Qu'est-ce qui vous plaisait dans la BD ?
En fait, moi, c'est comme ça que j'ai commencé à lire. Et c'est en regardant, en allant lire les BD de mes parents. Et aussi aller à la bibliothèque, c'était les livres que je prenais tout le temps des BD. Et du coup, ça me paraissait... Enfin, je rentrais très facilement dedans et c'était... J'ai commencé à en lire assez jeune, ouais.
J'ai lu aussi dans la courte présentation que fournit votre éditeur que qu'adolescente, vous lisiez aussi des blogs de BD, que c'était peut-être même là que votre vocation était née.
Eh oui, parce qu'en fait, c'était très à la mode dans les années 2010, les blogs de BD. Il y avait notamment celui de Maliki, qui m'a ouvert à tous les blogs BD, où en fait, les auteurs pouvaient poster leurs BD même sans avoir publié de livres. Et souvent, c'était autobiographique. Et ils racontaient leur quotidien, quoi.
Et c'était ça qui vous plaisait C'était une forme de journal intime en ligne, quoi.
Ouais, c'est ça. Et j'avais l'impression d'avoir un peu de connaître la vie de gens que je connaissais pas en vrai, quoi.
Demi-pensionnaire, donc votre première BD relate une année dans la vie de Mona et de Zoé, deux amis qui, le jour de la rentrée en troisième, vivent un vrai drame. Je vous laisse nous raconter quand même leur drame.
Eh bien, le drame, c'est qu'elles ne sont pas dans la même classe, alors qu'elles étaient dans la même classe depuis la sixième. Et donc, elles vont devoir rester amies malgré le fait qu'elles se verront que pendant le cours d'allemand, qui est le seul cours où elles se retrouvent, vu qu'elles font tous les deux allemand. Et voilà.
Alors, il y en a une qui va se retrouver avec la rivale de la deuxième, forcément. Mm-hmm. Et puis l'autre qui va se retrouver avec un garçon qui s'appelle, dont j'ai oublié le nom, Louis.
Louis, ouais.
Et là, il va se passer plein de choses. Vous avez choisi volontairement ce ton de chronique plutôt humoristique ?
C'était le ton qui m'est venu assez naturellement en repensant au collège et à l'adolescence pour un peu alléger toute cette gêne de l'adolescence et tout ce malaise qu'on a avec les gens.
Justement, un des personnages s'appelle Mona, on ne peut pas s'empêcher de se dire que ça doit être que ce n'est pas par hasard. Alors, est-ce que c'est autobiographique ? Est-ce que vous avez repris des histoires qui sont arrivées à d'autres amis ? Est-ce que vous avez mélangé plusieurs histoires ? Comment vous avez fait ?
À la base, j'avais fait une mini-histoire qui s'appelait Love Story, qui faisait 12 pages. Et ça, c'était entièrement autobiographique. Et c'est cette histoire qui a fait que j'ai fait cette BD ensuite de 100 pages, où je me suis replongée dans l'adolescence et le collège et tout ça. Et pour en faire 100 pages, en fait, j'ai dû prendre toutes mes anecdotes du collège et du lycée et prendre aussi celles de mes amis pour les mélanger et un peu choisir les plus représentatives de l'adolescence, quoi. Mm-hmm. Donc, du coup, ça part de vraies anecdotes, mais mélangées et tellement changées que c'est plus très autobiographique, quoi.
Alors après, vous avez construit une histoire en quatre parties, trois ou quatre, je ne sais plus, je crois qu'il y en a quatre. Et ça dit, donc, qui sont quatre grands moments de cette année de troisième. Est-ce que c'est parce que tout le reste est quand même globalement, on s'ennuie le reste du temps quand on est ado?
Bah ouais, on s'ennuie beaucoup. Hein. En fait, on peut pas sortir, on vit chez ses parents. C'est quand même très répétitif la vie au collège, quoi. On a les mêmes cours toute l'année, tout ça. Et moi, surtout quand je m'en souviens, j'ai beaucoup des... Dans une année au collège, je m'en rappelle souvent de 4-5 moments très importants et le reste, je m'en souviens pas spécialement.
Est-ce que c'est un peu l'âge, me semble-t-il aussi, où on se rappelle surtout de certaines personnes, des amis, quoi, des gens avec qui on passe tout son temps.
Et ouais, bah ouais.
C'est la bande, quoi.
C'est ça, et c'est un peu, c'est intense, tout est intense, parce que tout est une première fois, donc on peut faire des choses assez banales, et en fait, ça paraît génial à l'époque, quoi.
Moi, il y a quelque chose qui m'a surpris dans votre livre et qui m'a, en même temps, je trouve assez juste, c'est qu'il y a beaucoup d'onomatopées, des slurps, des burps. Ça, c'est un choix que vous avez fait. Vous vous souvenez des sons de votre adolescence? Il y en a vraiment beaucoup. Hein. Vous en avez mis beaucoup.
Ah ouais?
Oui, moi je trouve, mais c'est pas un reproche. Hein.
Non, mais c'est rigolo, j'ai même pas pensé, mais moi je les mets souvent dans mes dialogues, effectivement. J'ai l'impression qu'on fait beaucoup de... Ça amène des pauses dans les dialogues. Des moments où elles mangent des trucs, où elles boivent des boissons. Du coup, ça, j'ai l'impression que ça rythme mieux les dialogues un peu.
Oui, et aussi quand elles embrassent les garçons.
Oui, alors oui, bah oui. Effectivement, il fallait qu'il y ait de la bave et que ça fasse du bruit. Ouais, c'est important.
Mais je reviens quand même à la question, c'est pour vous, c'est une époque sonore ou pas? Ou c'est juste, vous faites ça tout le temps? Vous feriez pareil avec des adultes?
Oui, je fais ça tout le temps, effectivement, bon. c'est pas lié à l'adolescence.
On va pas vouloir demander plus. Est-ce que c'était aussi important pour vous de raconter cette histoire du point de vue d'une fille, parce qu'on a eu les BD de Riyad Satouf, les beaux gosses, et je ne sais pas s'il y a tant de filles que ça qui ont raconté leur adolescence.
Oui, moi je trouvais ça super important. Enfin, je sais pas si j'ai réussi à bien faire, à bien montrer le point de vue d'une fille, mais en tout cas, dans les beaux gosses, moi, ce qui m'avait marqué... c'est que les filles ont l'air parfaites et ont l'air de se poser aucune question. Elles ont l'air toujours magnifiques. Et en fait, moi, dans mon adolescence, j'étais comme les garçons. J'étais mal à l'aise, j'avais des boutons et je savais pas quoi faire de mon corps. Et souvent, c'est très peu montré, ça, dans les œuvres de garçons sur l'adolescence, je trouve.
Oui, parce que votre héroïne, elle est très peu sûre d'elle.
Elle est vraiment pas... Oui, elle est pas sûre d'elle du tout, hein, c'est clair.
Elle doute beaucoup du garçon avec qui elle est. Elle est...
Oui, et aussi de son corps, des choses comme ça que je trouve importantes à montrer, de choses, oui, par rapport à son corps et par rapport à dans la rue, la transition où on passe de l'âge enfant à l'âge adulte, où en fait les adultes nous regardent différemment aussi en tant que fille. Et ça, c'était quelque chose que je voulais un peu montrer aussi, quoi.
Moi, j'aime beaucoup la couverture. J'aime le livre, hein, mais j'aime aussi beaucoup la couverture parce que vous les avez dessinés comme deux géants, là, les deux personnages, Mona et Zoé. Et en même temps, elles transpirent de partout. Et on voit qu'elles ont peur, en fait. Et je trouve que ça résume assez bien l'adolescence, ce sentiment de toute puissance et en même temps, cette trouille absolue.
Oui, c'est ça. Bah, en même temps, on ne connaît rien. Donc, en fait, ça fait très peur et on ne sait pas trop. Et aussi, ce sentiment de pas savoir quoi faire avec son corps, là, aussi. Vu qu'elles prennent toute la place de la couverture, mais on a l'impression qu'elles sont pas très à l'aise.
Elles ont l'air carrément d'avoir envie de partir en courant, ce qui est assez drôle. On parle de male gaze au cinéma. Est-ce que on a déjà un peu parlé? Est-ce qu'il y a aussi la même? Vous trouvez qu'il y a la même chose dans la BD homme aujourd'hui?
Ah bah oui, totalement. C'est pareil. oui, il y a carrément du male gaze dans la BD. En fait, les femmes dans la BD sont beaucoup représentées. Très fine et notamment dans les BD des années 80 peut-être, de science-fiction ou des choses comme ça, les personnages des femmes sont pas très développés et elles sont souvent très belles, quoi. C'est surtout ça leur trait de caractère.
Mais là, vous, en même temps, vous interdisez de dessiner les garçons. Vous les dessinez pas, je sais pas comment dire, c'est pas très clair ce que je veux dire. Vous dessinez des garçons, mais vous les idéalisez pas, vous en faites pas des super-héros, ils sont comme les filles. Ils sont un peu pâteaux, on voit qu'ils sont pas très bien dans leur corps. Vous avez pas eu envie de dessiner des Apollons?
Non, j'avais pas envie d'inverser le male gaze en faisant des garçons qui sont totalement inexistants et des personnages qui sont pas construits en garçon. Je pense que justement, peut-être la réponse au male gaze, c'est de dire que c'est prendre en compte ces personnages et essayer de les développer en dehors de leur physique et un peu montrer leur caractère, quoi.
Alors d'ailleurs, vous en dessinez un Apollon, c'est quand ils vont à Berlin au musée, je pense que c'est au Pergame. Au Pergamon,
oui.
Mais ça, c'est véritablement une de la statue. Et comme tous les adolescents, ils ricanent devant cet Apollon nu.
Oui, bah oui, on l'a tous fait.
Alors ça, je crois que tout le monde l'a fait, même Alison, notre réalisatrice. Il y a aussi dans la qui m'en veut là. Elle se dit mais de quoi il me parle. Il y a aussi de la dureté quand même de l'adolescence dans votre BD avec ce personnage de Coralie qui au début est une petite peste et qu'on par rapport à laquelle on finit presque d'avoir pitié.
Oui, en fait, je trouvais ça intéressant aussi de montrer que quand on est adolescent, on est... En fait, il y a des rythmes de pouvoir qui se mettent en place et en fait, des personnes qu'on déteste parce qu'elles nous ont un peu harcelé à un moment, finalement, on se retrouve à leur faire du mal aussi. Enfin, un truc de où tout le monde est mal à l'aise et du coup, tout le monde ne sait pas comment se mettre. Enfin, par exemple, ce personnage de Coralie, je voulais la montrer comme une fille qui n'arrive pas vraiment à faire des amis en fait à la fin, quoi.
Et pourtant, elle invite tout le monde dans sa maison avec piscine, la pauvre.
Elle quoi ?
Elle invite bien tout le monde. C'est bien elle qui invite tout le monde dans sa maison avec une piscine.
Alors, elle invite tout le monde, mais à la base, elle veut inviter Louison et pas Mona. Et elle invite Mona parce que Louison lui demande.
Oui.
Mais oui, elle veut se faire des amis, quoi. C'est l'idée de faire des nouvelles amies.
Est-ce que vous faites partie des gens qui se remémorent cette période-là avec nostalgie ou est-ce que, pas plus que ça, vous êtes nostalgique de votre adolescence ?
Non, pas du tout. c'était bien, mais c'est bien que ça dure 5 ans, parce que sinon, c'est trop.
Qu'est-ce qu'il y avait de trop ?
C'est quand même fatigant de ne pas savoir qu'est-ce qu'on fait, de rien savoir sur la vie et de pas connaître son corps, c'est très fatigant. Ça prend beaucoup d'énergie.
Et j'ai lu que vous aviez dit quelque part que cette BD, c'est celle que vous auriez détesté lire quand vous-même vous étiez adolescente.
Alors oui, en fait, je disais ça parce que quand j'étais adolescente, il y a le film Les Beaux Gosses de Riad Satouf qui est sorti.
Ouais.
Et je l'avais détesté quand je l'avais vu ado parce que je me suis dit mais il se moque de nous, mais il nous caricature alors qu'on n'est pas du tout comme ça. Et en fait maintenant c'est mon film préféré et je le trouve super réaliste. Et donc du coup quand j'étais ado, je voulais pas voir la réalité en face peut-être.
Alors attention, transition du siècle, et vous aimiez la musique à cette époque ?
Oui.
Et vous écoutiez quoi ?
J'écoutais...
Tokyo Hotel, non, vous êtes trop jeune.
Si, il y avait Tokyo Hotel.
Encore,
ouais,
bah voilà.
Mais...
C'est pas votre truc. Bon, bah alors nous on va écouter autre chose tout de suite. Et on se retrouve tout de suite après. Super. Mona Grandjean, je rappelle que vous êtes l'autrice de Demi-pensionnaire, une BD aux collections Virage Graphique.
Oh mon amour, mon amour, baby.
Jeanne Birkin, amour, baiser. On est toujours avec Mona Grandjean. Vous êtes toujours là ?
Oui, je suis toujours là.
J'ai eu peur. Pardon. vous êtes toujours l'autrice donc, de Demi-pensionnaire chez, chez Virage Graphique. À chaque fois, je dis Rivage, c'est pas grave. Vous faites partie des jeunes qui avaient beaucoup lu de mangas, et j'ai aussi lu en préparant cette émission. Quels étaient les mangas que vous aimiez ?
Alors, oui, j'ai lu plein de mangas. Je lisais beaucoup de shoujo. J'étais fan de Nana, tous les mangas de Hayazawa, bien sûr. Donc, Nana, Paradise Kiss, toutes ces histoires d'amour qui prennent des heures et des heures, enfin des pages à se concrétiser. Voilà, j'adorais ça. Et j'adore toujours ça.
Et pourtant, moi, j'ai trouvé que votre dessin avait plutôt l'air influencé par des auteurs américains. Je me trompe ?
Oui, pour le dessin, effectivement, moi je me suis beaucoup inspirée de l'animation américaine en fait, de dessins animés en fait, de Cartoon Network, de choses comme ça.
Je sais pas très bien expliquer un dessin. Vous avez un dessin, oui, qui ressemble à effectivement, Cartoon. C'est très cartoonesque avec des personnages qui sont quelque part. Alors bien sûr, dans l'univers de un peu South Park, c'est un peu ce genre de personnage, un peu pas très, c'est pas un dessin réaliste, c'est ça que je veux dire.
Oui, effectivement, ils sont très ronds, ils ont des gros yeux, leurs mains c'est des mains boules, ils ont des gros pieds. Je respecte pas spécialement les proportions et parfois ils sont très simplifiés aussi. Et oui, c'est inspiré de l'animation et en fait il y a beaucoup d'auteurs de BD. Qui font de la BD autobiographique, notamment aux États-Unis comme Julia Vert et Lisa Anna Walt, dont le dessin n'est pas du tout réaliste en fait, et je trouve que ça marche très bien.
Ça crée peut-être aussi une distance qui donne de la force au récit. Le choix du noir et blanc, c'est aussi c'est cette école-là, c'est cette influence-là ?
Alors le choix du noir et blanc, ça c'est plutôt... En fait, la première histoire que j'avais fait de 12 pages, elle était en noir et blanc. Et du coup, j'ai voulu continuer là-dessus et travailler en noir et blanc. Et c'était aussi que la couleur allait peut-être me prendre trop de temps. Donc, j'ai préféré finir ma BD dans les temps et la faire en noir et blanc.
Je sais pas, vous avez rien contre le recours à la couleur ? C'est pas un choix esthétique forcené
Non, j'aime beaucoup la couleur aussi. Mais le noir et blanc, je trouve, suffit à la lecture aussi, quoi.
Qu'est-ce qui fait que... Qui sont aujourd'hui les dessinateurs que vous admirez, ceux qui vous inspirent ? Alors, on a déjà cité quelques-uns. Est-ce qu'il y en a d'autres ?
Bah alors oui, c'est Julia Vertz et Lisa Anna Walt m'inspirent beaucoup. En France, j'aime beaucoup le travail des gens qui ont illustré la fin de ma BD. Donc, Émilie Clark, Salomé Laoche...
Vous avez été... Oui, parce que, alors qu'on explique quand même, à la fin, il y a 5-6 planches qui sont pleines pages, alors que les pages sont séquencées à peu près en 12 cases habituellement, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Et là, vous avez fait pleines pages et que vous avez demandé à des gens que vous connaissez, moi je ne les connais pas forcément, d'illustrer, enfin d'imaginer une image inspirée de votre BD.
Oui, c'est ça. De dessiner une image avec mes personnages dedans, en fait, et de les réinterpréter à leur façon.
Alors, donc, on va redonner leur nom de ces gens. C'est des gens avec qui vous étiez à l'école, par exemple, ou c'est des gens que vous connaissez plutôt ?
C'est des gens avec qui j'étais à l'école, c'est des amis aussi. Donc, il y a Émilie Clark, Charlotte Bressler, Salomé Laoche, Antoine Meyer et Alexandre Turpo.
Oui, j'ai lu que vous vous réunissiez entre vous pour voir l'état d'avancement de vos travaux et discuter et vous aider sur les storyboards ?
Oui. Bah oui, c'est avec eux que j'ai eu beaucoup de conversations sur ma BD et avec qui on parle beaucoup de comment on avance sur nos BD. On se fait des relectures et des choses comme ça. Et c'est avec eux, ça aide beaucoup à avancer dans le travail, d'avoir des gens de confiance qui nous lisent et qui nous donnent des conseils.
Par exemple, vous, entre le premier storyboard que vous avez fait, puisque cette version qu'on a entre les mains, qu'est-ce qui a changé?
Alors,
comment votre récit a progressé? Je ne sais pas, est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez décidé de le chapitrer, de retirer des choses qui étaient moins intéressantes, ou est-ce que ça, c'était décidé dès le début? J'imagine que ça bouge au cours du temps.
En fait, oui. En fait, moi, ce que je fais, c'est que j'écris les dialogues en premier, et ensuite, je dessine un storyboard, et ensuite, je le dessine au propre. Et donc, dans le storyboard, en fait, il n'y a pas grand-chose qui a changé, parce que j'en ai beaucoup parlé avant de le dessiner et de l'écrire. Donc, je posais plutôt des questions. Par exemple, le voyage à Berlin, j'étais pas sûre de le mettre, ou alors peut-être que je voulais le mettre plus tôt. Donc, il y avait des choses comme ça.
C'est le genre de choses que vous avez discuté avec les autres, ça, par exemple?
Ça, j'en ai discuté avec les autres, oui.
Ouais, je trouve ça intéressant de savoir qu'aujourd'hui, on peut créer, qu'il y ait des collectifs comme ça de BDS qui travaillent ensemble et sans rivalité, finalement, c'est chouette.
Oui. Bah oui, moi, c'est vraiment ce que j'aime beaucoup, enfin, vraiment ce que j'aime beaucoup faire. Et c'est super important. Et en fait, c'est comme ça qu'on fait des meilleurs BD aussi, parce qu'on a la vie de plein de gens autour de nous, en fait. Et je trouve que c'est comme ça qu'on fait moins d'erreurs aussi, peut-être, dans nos livres, quoi.
On se retrouve dans 2 minutes 40. On écoute un peu de musique cette fois-ci. C'est PJ Harvey et ça s'appelle, je crois, Children. Je ne vais pas arriver à le dire, donc on va l'écouter, ça sera mieux. J'ai un accent déplorable. C'est PJ Harvey, A Child's Question. Mais finalement, j'étais bilingue.
La relève sur Radio Campus Paris.
Allez, on est toujours avec Mona Grandjean pour quelques minutes.
Oui.
Vous êtes toujours l'autrice de Demi-pensionnaire chez Virage Graphique. Vous avez étudié à la Haute École des Arts du Rhin à Strasbourg. Je voulais vous demander à quel moment vous avez su que votre rêve d'ado allait peut-être devenir réalité, qu'il existait des écoles.
Je l'ai su après mon diplôme. C'était une BD de diplôme et je l'ai postée sur Instagram et c'est comme ça que mon éditrice l'a vue. Et c'était en novembre 2021.
Donc c'était un travail d'école dont vous pensiez Enfin, que vous pensiez sans lendemain, vous étiez déjà parti sur autre chose ?
Donc, je pensais sortir et éditer une BD peut-être un jour, mais je ne savais pas comment. Donc, envoyer des dossiers. Et l'idée, c'était de trouver un petit travail aussi à côté et essayer de vivre de la BD. Et c'est arrivé plus vite que ce que je pensais, finalement.
Et c'est une bonne chose pour vous ou vous regrettez ? Non, j'imagine pas. Je sais pas. Il y a des gens qui n'aiment pas réussir trop tôt. Non, la réalisatrice est offusquée par ma question, je tiens à le dire. Donc c'est pour ça que je me permets de réagir, pardon.
Non, mais c'est super de réussir tôt. J'adore.
Bon. Et est-ce que c'était cette histoire-là que vous aviez d'abord voulu écrire ou est-ce que vous en aviez déjà plein d'autres en réserve pour la suite ?
J'avais d'autres histoires en réserve. J'avais fait une BD avec trois personnages notamment qui n'étaient pas humains. Il y avait une cyclope, une main et une espèce de boule de poil orange qui était en coloc et qui faisait la fête et qui vivait des aventures. Et cette histoire, étrangement, n'est pas plu aux éditeurs.
Ah bon ? Nous, on adore. C'est-à-dire, dans le studio, on adore.
Oui.
Ouais. On l'achète. On peut les retrouver sur votre Instagram ?
Oui, mais en scrollant très bas. C'est en 2020, pendant le confinement, qu'on peut retrouver ça.
Et il est à votre nom, mon Agrangeon ?
Oui.
On va tout y aller en courant, en sortant, hein, je vous préviens.
Ah bah super, alors.
Vous travaillez donc sur de nouveaux projets de votre côté ?
Oui, je travaille sur une nouvelle BD qui sera plus pour adultes cette fois-ci.
Ah, parce que celle-là n'était pas pour adultes, moi j'ai cru qu'elle était pour moi.
Si, elle était pour adultes, mais cette fois-ci, elle sera encore plus pour adultes, quoi.
C'est-à-dire avec des thèmes plus graves, des personnages plus adultes, peut-être, justement ?
Oui, voilà, c'est ça.
Mais parce que moi, je trouve que l'adolescence, c'est un sujet très important. Et même quand on est adulte, on aime y revenir. Et moi, je n'ai pas été avec vous à l'école. J'y étais quelques années plus tôt, au collège. Et il n'empêche qu'on retrouve des choses et que c'est très agréable de retrouver cette ambiance-là et que vous arrivez très bien à la retranscrire.
Donc,
vous
n'allez
pas continuer dans la veine autobiographique tout de suite ? On imaginait tout de suite Mona et ses amis au lycée, à la fac. Vous pouvez presque faire une série.
Bah oui, peut-être que je ferai une suite parce que j'aime bien cette idée d'amitié qui évolue à travers les âges, un peu entre Mona et Zoé. Mais pour l'instant, je vais faire une autre BD pour un peu faire une pause de ces personnages-là et de l'adolescence. Et je verrai après si je reviens dedans. Mais après, ça reste toujours autobiographique, mes BD. Hein. C'est toujours un peu inspiré de ma vie, quoi.
Vous avez... Bah non, parce que quand même, vous n'avez jamais rencontré une boule de poil orange. Rassurez-moi.
Alors non, c'est vrai. Mais finalement, ils étaient en colocation et puis ils faisaient la fête et puis ils avaient un peu la même vie que
Ah, c'était que plutôt... Moi, oui, c'était l'enfermement pendant le confinement qui vous a amené à parler des... C'était une histoire de colocation avant tout, peut-être.
C'est ça, voilà.
Bon, finalement, je ne sais pas. Moi, je me suis enrhumé, mais il fait tellement froid dans le studio, c'est peut-être pour ça. Mais je ne sais pas lequel de vos colocataires était la boule de poil orange, mais il ne va pas être très content, peut-être celui-là. C'est difficile de le présenter à son entourage, par exemple. Là, vous avez revu vos copains de collège ?
J'en ai revu quelques-uns, oui, et ils l'ont vu, et ça leur a plu. Ça,
il y en a pas un qui a dit « mais comment, je suis ridicule ?»
Non, je me suis assez sauvage, je suis allée assez loin de la réalité pour qu'ils ne se reconnaissent pas trop dedans.
Eh bien écoutez, merci beaucoup Mona Grangeon. Je redonne le titre de votre album Demi-pensionnaire à la collection Virage Graphique, puis peut-être une prochaine fois dans nos studios.
Merci beaucoup.
Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Voilà, c'était la relève, c'était produit, présenté par Christophe. La réalisation était assurée par Alison, que je remercie pour sa présence joyeuse tout au long de cette année. Un merci spécial à Simon Red, Garance Meillon, Gabriel Durla, Anne Massal, Carla Chalou, Emilio Sicariano, Eloi Spinner, Stéphanie Blanchou, Claire Delarue, Johan Gaziorowski, James Albon, Eva Ramuratian et bien sûr tous les autres invités qui sont venus à notre micro cette année et qui ont fait la relève bien plus que moi. Vous pouvez retrouver les émissions de cette année et des années précédentes sur le site web de Radio Campus Paris. Il faut peut-être avoir une petite formation à l'archéologie, mais vous pouvez les retrouver sur le site. Vous retrouvez le programme musical de Radio Campus Paris. Normalement, à 19h, vous allez retrouver les estivales de Radio Campus Paris. Et normalement aussi, la relève sera de retour le 18 septembre. Alors vous avez tout pour passer un très bel été. Merci à vous de nous avoir écoutés. Au revoir.